Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Meet Lamitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux.
Bienvenue dans Hot Tech et Slumber, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mitlamit, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Vincent. Salut Vincent.
Salut Mit, salut tout le monde.
Alors Vincent, comment c'était Metal Gear Solid 2 cette année chez Carfoncé?
C'est toujours un plaisir Metal Gear Solid 2. C'est toujours un plaisir. Et alors, avec Oni en guest, qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus pour ce record?
Très très bel épisode. J'ai beaucoup aimé.
Un moment très plaisant, vraiment. 10 sur 10, pas de remarques.
Parfait. Saison 5 hein, de Texas Slowburn qui commence avec cet épisode.
Et
on commence à se faire vieux. Est-ce que c'est la saison de trop? Vous nous direz sur Discord si vous pensez que la saison 5, c'est la saison de trop. Alors, je préfère donner la couleur tout de suite. C'est un peu fortuit. Mais dans cette saison, on va beaucoup parler des mêmes séries de jeux. C'est pas complètement fait exprès, mais préparez-vous. Pour inaugurer donc cette saison 5, je me suis dit qu'on allait parler d'un jeu qui est cher à nos cœurs, à toi et à moi. Et pour lequel j'ai développé une hot take qui, je l'espère, te parlera, même si elle risque aussi de, spoiler alert, de briser ton cœur, mais bon.
On verra bien.
Donc, le jeu dont nous allons parler pour cet épisode, c'est Sonic 3 et son extension, aussi bien logicielle que matérielle, puisque c'était sorti sur une cartouche spéciale où on pouvait insérer une autre cartouche dedans, c'est le bon vieux Sonic 3, Sonic 3 et Knuckles, Sonic et Knuckles.
Ah oui, Sonic 3 et Knuckles, oui, on connaît bien Sonic 3 et Knuckles, Championship Edition, plus EX Alpha, featuring Dante from Devil May Cry.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment.
N'hésitez pas à nous dire sur le Discord si on a oublié des extensions. Hein, ce serait
sur dommage et fortuit. Sur le Discord des
Knuckles. Championship is... Ah
ça ne sert jamais. The World Warrior. Non, ça ne sert jamais.
Tu dis cher à nos cœurs. Et oui, alors oui, cher à nos cœurs. Mais moi, j'ai une histoire un peu bizarre avec ce jeu. C'est que je n'ai eu que Sonic et Knuckles pendant très longtemps. Je n'ai joué à Sonic 3 que très très tard, et donc à la complète. C'était l'époque où, si tu veux, acheter un jeu vidéo, déjà, c'était pas un acte personnel, il fallait le demander. Et donc ça veut dire qu'un adulte responsable pouvait très bien dire « Non, je t'ai déjà acheté l'autre jeu, je ne vais pas maintenant te racheter celui-là. » Et impossible à l'époque d'expliquer que le jeu ne marchait pas pas bien tout seul. Et finir Sonic et Knuckles sans sauvegarde,
c'est pas facile.
Ah non.
Ça se fait quand on est bien habitué, mais c'est pas facile.
C'était mon Dark Souls ou, pour des références un petit peu plus récentes, mon Silksong de l'époque.
Ah, Silksong. Non, mais c'est marrant ce que tu racontes parce que moi, j'ai eu ce problème-là. Quelques années plus tard, avec les Zelda sur Game Boy Color, Oracle of Ages et Oracle of Seasons, où j'ai dû expliquer à mes parents que non, c'était pas comme Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, et c'était pas deux fois le même jeu, c'était vraiment deux jeux différents qui pouvaient se combiner.
Pour le coup, vraiment deux jeux très différents en plus.
Très très différents en plus.
Mais ça, alors ça, tu vois, pour le coup, là, moi, j'ai pu me démerder parce que c'était l'époque où on m'achetait plus les trucs directement, mais on me donnait l'argent de poche. Donc à charge pour moi de le dépenser de manière déraisonnable sans que ça se voit trop. On dit évidemment. Rien. On dit rien, évidemment.
Mais donc oui, non, mais je vois bien le genre d'argumentaire que tu dois développer et qui en plus est très clair dans ta tête et où tu n'as aucun moyen de savoir à quel point c'est clair dans la tête de ton parent ou pas.
Mais oui, non, mais c'est infernal. Et en plus, après, bon, c'est mes personnels. L'adulte raisonnable en question, c'était ma grand-mère paternelle qui était absolument adorable dans tous les cas de figure. Donc, genre, jamais je lui en voudrais de ça. Mais c'est vrai qu'elle a rendu mon rapport au jeu un petit peu compliqué malgré elle. Mais bon, voilà, c'est des petits détails tout ça. C'est juste des petites anecdotes rigolotes.
Pour les petits jeunes qui nous écoutent, évidemment, on va faire un petit récap. Hein. En 1994, Sonic est un petit peu au fait de sa gloire, a vraiment explosé les compteurs en 1991 avec Sonic 1, a très très bien marché avec Sonic 2 en 1992. Sonic CD existe sur Mega CD en 1993. Et en 1994, il est temps de sortir Sonic 3.
Il est temps à nouveau, autant à nouveau.
La Sonic Team est sur le coup, Yuji Naka est sur le coup. Et le problème, c'est qu'ils veulent faire un jeu tellement grand, tellement ambitieux, tellement vaste, qu'ils n'ont pas le temps de le faire sortir dans les temps. Et il faut sortir un Sonic très très vite. Et donc, Sega des années 90 étant ce qu'il est, ils se sont dit, ah vous savez quoi, on va couper le jeu en deux et puis on va faire une cartouche qu'on va appeler Sonic 3 et les niveaux qui restent on va les mettre sur une autre cartouche et puis on va faire un bordel d'électronique et puis on va pouvoir mettre les deux cartouches ensemble et puis voilà.
Et alors ce qui vous donne en gros une cartouche classique qui est Sonic 3 avec la pile de sauvegarde et une petite cartouche avec un petit capot et un deuxième port cartouche sous le capot, qui est Sonic & Knuckles. Si vous aviez que Sonic & Knuckles, bah vous sauvegardiez pas, tant pis pour votre cul. Et si vous vouliez faire le jeu complet, vous mettiez Sonic & Knuckles dans la console, vous ouvriez le capot, et Sonic 3 dans Sonic & Knuckles, comme d'aucuns diraient, comme un parent dans un autre parent. Mais ça, cela ne nous regarde pas.
Et cette technologie, en plus, elle a ensuite inspiré le fameux 32X qui permettait d'avoir des performances de console 32 bits sur la Mega Drive qui était une console 16 bits. Et donc, tu pouvais faire une Tower of Doom avec un 32X, un Action Replay, Sonic & Knuckles, Sonic 3.
Tu rajoutes un Game Genie au milieu, tu vois, genre juste histoire de dire. Et hop là.
Et voilà. Et ça tient très bien en équilibre. Et alors, il y avait quelques petites subtilités à ça. C'est que... alors ça, c'est le genre de fun fact hyper obscur que tu ne peux savoir que si ça t'est arrivé personnellement. Nous, on avait Sonic 3 en version importée américaine. Donc, cartouche avec écrit Genesis sur fond rouge et pas Mega Drive sur fond bleu.
Elles ont un form factor un peu différent en plus, il me semble.
Qui ne fonctionnait pas dans notre Mega Drive, dont j'ai compris des années plus tard que c'était une Mega Drive japonaise importée.
Delmore.
Sur laquelle fonctionnaient très bien les autres jeux. Hein. Mais donc on avait un adaptateur pour jouer à Sonic 3 tout seul, parce que c'était une cartouche américaine qui marchait pas sur la console japonaise. Et je sais que c'était une console japonaise parce que la manette avait le bouton start qui était bleu et pas blanc. Parce que le bouton start était blanc sur les consoles européennes. Mais par contre, quand tu mettais ce Sonic 3 américain dans un Sonic & Knuckles européen, PAL, bah ça marchait. Ça marchait très bien, pas de problème. Les mystères et les aléas du zonage du jeu vidéo dans les années 90 encore. Et ce fun fact vous est vraiment offert par les gens qui se retrouvent avec des versions importées, on ne sait pas pourquoi, des jeux vidéo. Hein. Et du coup, on avait aussi notre cartouche de Quackshot, le jeu avec Donald Duck. C'était une cartouche importée aussi, avec une ébauche de notice tapée en français, limite sur un ticket de caisse qui avait été rajouté dans la boîte.
Waouh.
Vraiment le truc à l'ancienne, quoi.
Alors, Quackshot, ça aussi.
Et comme c'était une cartouche japonaise, quand on a eu une Mega Drive 2 plus tard, bah, le Quackshot, il rentrait pas dans la Mega Drive 2.
Il faut aussi dire un tout petit truc là-dessus, genre une mini parenthèse, c'est que là aujourd'hui vous mettez votre jeu dans la console, vous lancez votre jeu sur le PC, il n'y a globalement 90% du temps une bonne petite VF pour vous accueillir. Quackshot avec Donald Duck, hein, à l'époque. Alors, on pourrait se dire, allez, pour les enfants, on va faire un petit effort. Non, Nick, c'était en anglais. Tout en anglais.
C'était en anglais. La version japonaise était en anglais parce que 26 caractères, ça prend moins de place dans la mémoire de la cartouche que les kanji.
Voilà. Et moi, en 92, j'avais 7 ans. À 7 ans, tu peux faire beaucoup d'efforts, mais parler anglais, c'est compliqué quand même. Hein.
Alors, je sais pas toi, moi, mon expérience de Quackshot, c'était apprendre par cœur l'ordre des niveaux et faire les niveaux dans l'ordre, pas parce que je comprends ce que je fais, mais parce que sinon, ça ne marche pas.
Pour clôturer la parenthèse sur cette anecdote-là, moi, mon expérience de Quackshot, c'était avoir la console à la maison de famille, en gros, genre là où toute la famille se réunit l'été, et jouer uniquement quand les cousins peuvent passer, regarder ce qui se dit et dire « Non, mais en fait, faut que tu retournes là, faut que tu ailles là, c'est là, il te dit ça. » Et avoir les gens derrière qui se disent « Mais t'es con, il dit pas ça du tout, il dit ça, ça veut pas dire pareil. » Et au final, j'ai fini par apprendre par cœur, mais sur la base de déchiffrage familiaux complexe.
Ouais, tout ça pour un jeu qui est assez agréable jusqu'au tout dernier niveau, qui est une espèce de cauchemar.
Oh là, non, t'es dur.
Alors, la jungle du cul et les plateformes qui apparaissent au dernier pixel avant que tu tombes dessus avec les sauts dans le vide.
Je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça et je n'ai pas trouvé que ce soit si horrible que ça. Mais,
la jungle du cul, c'est quand même dur.
C'est pas les meilleurs moments du jeu, mais ça reste faisable et très cool.
Voilà. Dernier boss marrant, pas si dur que ça, même s'il faut bien voir faire le pattern, mais c'est pas de ce jeu-là qu'on parle, puisqu'on parle de Sonic 3
revenons à nos moutons, l'église au centre du village.
On va évacuer le truc tout de suite pour pas qu'on me dise que j'en ai pas parlé. Voilà, au générique, il y avait Brad Buxer, qui était un producteur de musique qui était connu pour travailler avec Michael Jackson. En 2006, des gens ont enquêté, se sont rendus compte qu'il y avait marqué Brad Buxer, pas seulement parce que Brad Buxer avait travaillé sur le jeu, mais parce que Michael Jackson avait travaillé sur la musique du jeu. Est-ce qu'il était content ou pas des musiques? Est-ce que le générique, c'est Strangers in Moscow? Est-ce que Hard Times des Jetsons est un disque qui est sorti un jour? En vrai, toutes ces questions-là, je ne m'y intéresse pas. Par contre, cette enquête et ces révélations ont eu pour conséquence qu'on se tape les musiques dégueulasses de la version PC dans la Sonic Anniversary Collection pour les niveaux qui sont attribués à Michael Jackson. Donc, les niveaux 4, 5 et 6, Carnival Night, Ice Cap et Lodge Base Zone. Tout le reste, c'est la musique originale, parce que il n'y a que ces morceaux-là, en fait, qui ont été composés par Michael Jackson. Bon, voilà. Je l'ai dit, pour vous montrer pas de blanche, je le sais, je m'en fous. Donc voilà, moi j'ai eu d'abord Sonic 3, ensuite Sonic et Knuckles, on a combiné les deux, c'était incroyable. Pendant très longtemps, j'ai joué uniquement Knuckles, parce que c'était complètement ouf de pouvoir jouer Knuckles après l'avoir vu gâcher la vie de Sonic entre les niveaux dans Sonic 3.
Mais c'est cool de planer et de monter au mur aussi.
Oui, le gameplay avec Knuckles était très sympa, même s'il saute un petit peu moins haut. Le truc que je savais pas, c'est que Knuckles traverse les mêmes niveaux que Sonic, mais il les traverse après Sonic. Et c'est pour ça qu'il y a certains passages qui sont déjà ouverts. C'est pour ça qu'il se bat contre un Egg Robot et pas contre le Docteur Robotnik, parce que le Robotnik est parti. Il a été vaincu. Et tous ces trucs-là, si tu joues pas la campagne de Sonic, c'est pas clair que la campagne de Knuckles se joue après. Mais bref, donc, Sonic et Knuckles, quand on combine les deux jeux, ça fait 14 niveaux qui s'étalent sur toute une gigantesque île flottant dans le ciel qui s'appelle Angel Island, et qui reprend directement la suite de Sonic 2. À la fin de Sonic 2, Sonic va dans le Death Egg, hein, l'œuf de la mort, pour combattre le Dr. Eggman. Il le bat, le Death Egg s'écrase sur l'île. C'est en fait un retcon de la fin de Sonic 2 où on le voit exploser, mais bon, peu importe. Et sur Angel Island se trouve, en plus des Chaos Emeralds, la fameuse Master Emerald gardée par Knuckles. Et le docteur Robotnik veut se servir de la Master Emerald pour réparer et alimenter les réacteurs de son Death Egg pour de nouveau conquérir le monde. Et donc Sonic va chercher à arrêter le docteur Eggman et va le poursuivre jusqu'au cœur du Death Egg pour à la fin un affrontement complètement épique dans l'espace, pour peu qu'on ait réussi à récupérer les Chaos Emeralds dans les niveaux spéciaux pour pouvoir se transformer en Super Sonic et avoir une fin complètement folle où on est voilà, Super Sonic qui vole entre les astéroïdes, qui doit esquiver les missiles pour battre Eggman qui s'enfuit avec la Master Emerald dans l'espace. Du coup, dans ce jeu, on commence assez tranquillement sur Angel Island, et on combat un robot incendiaire qui met le feu à la forêt. C'était très impressionnant à l'époque de voir cette jolie île tropicale devenir complètement ravagée par les incendies. En 2025, ça fait des échos bizarres à ce qui se passe dans la vraie vie, mais bon, ça c'est encore d'autres problèmes. Est-ce que tu te rappelles de la deuxième partie du niveau Carnival Night Zone ? Avec le petit tambour rouge et blanc qu'il faut faire osciller de haut en bas.
Oui. Oui, je m'en rappelle parce que chaque fois que je relance le jeu, et ça, c'est pas une blague, à chaque fois, j'oublie comment ce truc fonctionne. Et à chaque fois, je rage et je time out sur cette zone comme un abruti. Et ça me rend fou.
Alors, il y a un moment dans ce niveau où le seul moyen de sortir, c'est de réussir à faire en sorte que cette espèce de baril s'enfonce suffisamment dans le sol pour passer par une ouverture et continuer le niveau. Et ce truc-là, en fait, peut se contrôler, seulement personne ne nous explique comment ça se contrôle, même pas le manuel. Et donc, il faut un peu deviner ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est assez simple. Hein. C'est le principe de la balançoire. Hein. Quand ça monte, il faut faire vers le haut. Quand ça descend, il faut faire vers le bas. Et ça entre en résonance, ça prend de l'amplitude. Et à un moment, ça descend suffisamment bas pour qu'on puisse sauter. Donc, comme ça, vous aurez un enregistrement de podcast pour avoir la soluce du Carnival Night Acte 2 dans Sonic 3 et dans Sonic 3 et Knuckles. Gros point de frustration pour moi à l'époque où on avait Sonic 3... Et il fallait attendre que quelqu'un d'autre fasse le niveau pour moi ou que je joue sur une sauvegarde déjà finie pour voir les niveaux restants, parce que sinon j'étais bloqué à Carnival Night pour toujours. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il fallait que les parents vous autorisent à aller sur le Minitel pour avoir la soluce. Et parfois la soluce sur le Minitel n'avait aucun sens. Donc c'était vraiment, tu payais cher et t'étais pas sûr de ce que t'allais obtenir. C'était... un petit peu comme ChatGPT, mais 30 ans avant, quoi.
Mesdames et messieurs, le monde d'avant Internet.
La fierté française, hein, Minitel. Fun fact, est-ce que tu sais en quelle année le réseau Minitel a été officiellement désactivé ?
C'est récent, non ? C'est relativement récent, c'est pas 2020 ?
Ah, pas 2020, c'est 2008.
Ah, quand même ! C'est moins récent que ce que je pensais. Il me semblait qu'il avait... Ah non, t'as raison. 2008, mais on peut encore s'amuser un peu avec des trucs plus ou moins locaux, si je dis pas de bêtises.
Oui, ouais. Alors si après, oui, si localement, quelqu'un construit une infrastructure à laquelle il arrive à relier l'appareil, oui, je suppose que ça fonctionne.
A priori.
A priori. Mais donc, ouais, c'était pas facile. Et en plus, c'était vraiment frustrant, parce que Carnival Night Zone, c'est un niveau que moi, je trouve pas ouf.
Ah, il est vraiment pas plaisant de base, hein. Et alors bah, ça rajoute juste au problème. Hein.
Ouais, c'est un peu pour moi le cousin débile de Casino Night Zone dans Sonic 2, qui est un niveau très populaire, Casino Night. Sauf que j'aimais déjà pas Casino Night, moi. Alors la version Piste aux étoiles avec la petite mélodie à la con, j'étais...
Ah, non, en plus, il faut que tu te tapes cette horrible musique là de cirque dégueulasse, hein. Vraiment, ça doit être la pire piste de toute l'OST assez facilement.
Et bah, figure-toi que la version des Michael Jacksonisée dans la version PC et dans la version Sonic Universe Recollection est pire.
Oh my god.
Non, parce que l'espèce de musique de cirque à la con, c'est musique de cirque à la con, mais il y a un aspect un peu expérimental, surtout dans l'acte 2, où les musiques sont un petit peu déconstruites. Il y a ce mérite-là. Mais par contre, la version programme MIDI libre de droit ajouté à la va-vite parce qu'on n'avait plus Michael Jackson, c'est chaud. Hein.
Oh putain, ouais, non, j'ai poussé la curiosité. Hein, c'est... Ah, c'est vraiment pas dingue.
Ouais, c'est vraiment pas dingue, hein, pas dingue sur 20. Alors que les niveaux suivants, Ice Cap Zone et Launch Base, avaient des musiques qui étaient des bangers absolus, et eux aussi ont été remplacés par Who Cares.midi. Et c'est dommage, quoi.
Oh, ils ont osé. Je viens d'écouter Ice Cap. Non, c'est
Ice Cap, ils ont remplacé cet incroyable morceau qui était donc Hard Times des Jetsons. Un morceau qui n'est jamais sorti, hein, j'insiste. Mais en version un peu Eurodance, pas dégueu.
Ah,
et le remplacer par ce que je qualifierais de musique de pub Coca-Cola avec les ours polaires.
je sais pas, moi j'ai l'impression d'entendre vraiment des random musique MIDI d'RPG Maker.
Putain, c'est pas faux.
C'est...
Oh, le niveau de la neige, le niveau de la neige point MIDI.
Vraiment, vous ne vous sentez pas obligé d'être curieux. Hein. C'est...
Non, et pour Launch Base, moi, c'était mon morceau préféré, la musique de Launch Base, et l'espèce de taratata militaire nul qu'ils ont mis à la place. C'est dur. Hein. Je sens que tu vas te faire du mal.
Ah non, mais évidemment que je vais me faire du mal. Ouais, ok, d'accord. Faut que je me remette le morceau d'origine en tête, déjà. C'est pas l'acte que j'ai le plus.
Alors, moi, je l'adore à cause de sa musique. Je sais que bon, c'est une musique que beaucoup de gens considèrent un peu osef. Moi, j'aime beaucoup, mais j'aime bien le côté un peu chill, alors que c'est censé être le dernier niveau de Sonic 3 et que du coup. Ah, mais alors, les trompettes à deux balles, les trompettes MIDI dégueulasses.
Non, mais vraiment. Oh, il n'y a rien qui.
Ah, c'est dur. Hein.
Il n'y a absolument rien qui va.
Alors que la petite ligne de basse et les petits sifflets, ça donnait l'impression... Enfin, pour moi, ça donnait l'impression que déjà, il faisait chaud dans ce niveau. Donc, ça donnait vraiment du contraste avec Ice Cap Zone, qui était une zone froide. Alors que là, il n'y a rien qui va, quoi.
Il n'y a vraiment rien qui va du tout.
Et si les YouTubers, c'était pas leur chou gras sur ces histoires de Michael Jackson... Et eh ben, les droits, personne ne les aurait réclamés et on aurait eu les musiques originales dans le jeu de 2023, j'insiste. Hein.
Comme quoi, vous faites chier à savoir des trucs. Voilà, fermez vos bouches.
Et les lanceurs d'alerte, parfois, c'est un problème. Voilà, c'est mode tech. Quoi ? Non. Ne sortez pas ça de son contexte. Et donc voilà, quand les deux cartouches étaient connectées, on finissait Launch Base Zone et on était transporté dans Mushroom Hill Zone, un niveau un petit peu bâtard qui doit à la fois être la suite du dernier niveau de Sonic 3 et qui en même temps va être le premier niveau de Sonic & Knuckles. Donc, gimmick avec les saisons, des trucs avec des espèces de poulies où il faut tirer dessus pour avancer. Moi, un truc que j'aime beaucoup avec les Sonic, surtout à partir de Sonic 3, c'est que chaque niveau a une identité de mécanique de gameplay qui est bien marquée et qui se répète pas trop d'un niveau à l'autre.
Mm-hmm.
En général, il y a un ou deux éléments avec lesquels tu peux interagir de manière unique dans chaque niveau. Et contrairement à un Mario qui a tellement de niveaux, qui finit par faire du mix and match et du remix de ses gimmicks, là, vraiment, chaque niveau a ses propres gimmicks, ça leur donne des identités mécaniques assez marquées. C'est quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai aussi apprécié de revoir dans Sonic Mania, par exemple.
Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça.
C'est d'ailleurs aussi présent dans Sonic Superstar, mais comme personne n'a joué à ce jeu et que les gens qui y ont joué ne l'ont pas aimé, tout le monde s'en fout.
Drawing a fucking blank. Ah oui, ce truc qui était sorti il y a quelques... Oui, d'accord, ok.
Ouais. Sega a eu la super idée de sortir ça en même temps que Nintendo sortait Super Mario Bros. Wonder.
Ah, c'est fou qu'il soit quand même dit non, mais regarde, ça a super bien marché quand on... 60 balles sur le shop. Pardon, excusez-moi, je viens de faire un AVC en ligne. Tout va bien, je reviens à vous. je trouve ça quand même complètement dingue que les mecs soient dit hey, regardez, quand on a fait Sonic 4, ça n'a pas du tout marché. Quand on a fait Sonic Mania, ça a fait un carton. Et si on faisait Sonic 4, mais en mode Mania, c'est du génie, non? Bah non.
Alors, en vrai, Sonic Superstar, c'est un jeu qui, franchement, est vraiment pas loin d'être un 6,5 sur 10, tout à fait honnête et largement acceptable pour quelqu'un qui aime beaucoup Sonic, mais qui passe si près d'être ce 6,5 sur 10 que ça en devient insupportable.
Et puis, là, le peu de screen que je vois me donne pas vraiment envie d'y jouer en plus. Pour un...
Il y a des niveaux qui ont des bons gimmicks, c'est plutôt agréable manette en main. Il y a quelques bonnes idées du genre chaque Chaos Emerald te donne un pouvoir différent, mais le jeu va trop loin sur certains, va trop loin sur les trucs qui vont pas et va pas assez loin sur les trucs qui vont. Et se permet aussi des boss finaux de 15 minutes.
Ouf.
Ce qui est un crime contre l'humanité pour des jeux de plateforme en 2D, hein, on peut le dire. Et quand je dis boss final de 15 minutes, je parle du boss final. Je parle du premier boss final caché, mais je ne parle pas du deuxième boss final caché qui, lui, en prend 30.
Non, à l'aide. C'est non. C'est non d'office.
Sachant que pour avoir le deuxième boss final caché, enfin, pour avoir le premier boss final caché, puis le deuxième boss final caché, il faut faire une campagne solo obligatoire sur un jeu qui s'est vendu comme étant jouable à 4.
Putain.
Vraiment du génie. Je sais pas où mettre ça sur l'échelle du génie de Sega, où on trouve aussi sortir la Saturn sans jeu pour le plaisir de dire qu'elle est sortie, et ne pas mettre de protection logicielle sur les disques de la Dreamcast, parce que c'est des GD-ROM, TKT frère, personne ne va les pirater.
Des génies, des purs génies.
Les gars, c'est des génies mentaux. Mais donc Sonic 3 et Knuckles... La partie Sonic & Knuckles, en fait, c'est logique qu'elle soit plus dure parce que c'est la deuxième partie du jeu. Quand le jeu est vendu en standalone sans sauvegarde alors que Sonic 3 tout seul lui avait des sauvegardes, ça fait un peu mal au cul. Je suis pas développeur de jeu. Il y a quelque part chez moi, il y a une petite voix dans ma tête qui peut pas s'empêcher de dire « Il y avait un système de sauvegarde dans le jeu d'avant ». C'est deux morceaux du même jeu avec le même moteur, le même code. Est-ce que ça coûtait si cher que ça de mettre une petite pile de sauvegarde dans la cartouche de Sonic & Knuckles aussi? À quel point est-ce que ça aurait foutu en l'air le système de sauvegarde? Je ne sais pas. La seule hypothèse que j'ai, c'est que avoir une pile de sauvegarde dans chaque cartouche, oui, parce qu'à l'époque, les enfants, il fallait des piles. Quand je dis piles de sauvegarde, c'est que c'est des piles électriques avec de l'énergie qui peuvent se vider, et quand il n'y a plus d'énergie dans la pile, la cartouche ne sauvegarde plus. Hein, RIP, les cartouches de Pokémon bleu.
RIP, toutes les cartouches dont les piles ont expiré depuis.
Mais donc je me dis, ouais, peut-être que s'il y a une pile de sauvegarde dans chaque cartouche, ça fout le bordel et le jeu sait plus où sauvegarder. Alors que s'il y a juste la pile de sauvegarde dans Sonic 3, ben, tu sauvegardes tout dans la pile de Sonic 3.
Ah, après, peut-être aussi que c'est une bête logique de conservation de frais de prix, quoi.
Alors, c'est possible aussi que, comme c'était une cartouche custom qui était plus chère à fabriquer, ils ont fait des économies en ne mettant pas de pile de sauvegarde dedans. Ça, c'est possible aussi.
Ça a l'air de rien. En plus, c'est le genre de pile qui peut assez vite te coûter une petite couillasse, hein. Pas non plus le composant probablement le plus cher de la cartouche, mais ouais, c'est encore que...
Une petite pile.
Ouais. Une petite pile de merde, là. Une petite pile à la con.
Ouais.
Sachant que la sauvegarde sur cartouche, c'était pas non plus une pratique extrêmement courante de l'époque. Hein. Les jeux sans sauvegarde qu'il fallait faire un 100% sur une seule traite, c'était encore un...
Oui, c'était encore très fréquent. Et du coup, toute la philosophie de game design qui allait avec, qui était héritée du jeu d'arcade, était très marquée. Hein. Même dans Sonic 3, qui avait des sauvegardes. En fait, Sonic 3, c'est... Il y a une vidéo assez intéressante d'une chaîne qui s'appelle... je ne me rappelle plus le nom exact de la chaîne, mais c'est une chaîne très intéressante qui parle notamment de la musique de Sonic et qui explique que si tu veux vraiment, vraiment taper des high scores et jouer à Sonic 3 comme un jeu d'arcade, le jeu, il devient v'là dur et c'est plus du tout la même mayonnaise, quoi. Parce que, en fait, une des mécaniques principales des Sonic en 2D, c'est que si tu te fais toucher, c'est pas grave parce que tu perds tes anneaux, tu peux récupérer des anneaux et tant que t'as un anneau, t'es en vie. Mais si tu veux taper du high score et finir le niveau très très vite, t'as juste pas le droit de te faire toucher, en fait. Si tu te fais toucher, ton high score, il est foutu. Et c'est pas facile dans les Sonic en 2D de pas se faire toucher.
Non, il y a pas facile du tout même. C'est très facile de se prendre un pic perdu, un ennemi à la con qui traîne à un endroit où tu peux plus être en dash boule, ce genre de mesures protectives.
Ouais, donc.
Dès les premiers niveaux, hein, tu peux très facilement.
Oui, et c'est avec la manière dont je fonctionne, c'est pas très grave. Et en plus, nous maintenant, voilà, 30 ans après, on farme les Chaos Emeralds aussi vite qu'on peut, on se transforme en Super Sonic et puis on s'en fout, on est invincible. Mais en vrai, compliqué. Hein. D'ailleurs, petit truc rigolo, Sonic 3 et Sonic & Knuckles, c'est les seuls jeux où Super Sonic a les pupilles qui deviennent vertes. Et je pense que quelqu'un, quelque part, chez Shonen Jump ou chez Toei Animation a dit à quelqu'un chez Sega, frérot, t'abuses un peu là.
Arrêtez où, ça va finir par se voir. Peut-être bien, ouais.
Parce que, bon, les pics de Sonic qui ressemblent à la moitié des pics des cheveux de Goku, plausible deniability. Sonic qui devient jaune avec les pics qui se dressent vers le haut en 1992, sachant que Goku qui devient Super Saiyan contre Freezer, ça doit être 1991, pas plausible deniability. Et alors, les pupilles qui deviennent vertes, comme dans le dessin animé, là, c'est vraiment fous-toi de ma gueule, quoi. Donc, c'est le seul jeu où les pupilles sont vertes. Dans tous les autres jeux, les pupilles de Super Sonic, si c'est Sonic moderne, elles sont, les iris sont rouges. Et si c'est Sonic classique, ils ont refait comme dans Sonic 2 et les pupilles restent noires. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pour avoir ces Chaos Emeralds, il fallait faire des special stage avec les fameuses Blue Sphere, avec la perspective ultra forcée où on avait l'horizon qui était sphérique. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, enfin, tu t'en souviens forcément, ces niveaux, ils étaient vraiment chouettes.
Alors, j'aime beaucoup la musique de ces niveaux. J'aime beaucoup les premiers. Mais alors, les derniers, c'est du concentré de crise cardiaque. Hein.
Alors, ouais, le fait que ça aille de plus en plus vite au fur et à mesure que le temps passe et que ce ne soit pas lié à ta performance dans le niveau, mais lié au fait que le temps passe, ça peut être dur. Si tu veux avoir tous les anneaux et claquer le perfect sur tous les special stage, ça devient dur.
Ah, je crois très sincèrement qu'il ne faut pas essayer le perfect. Plus ça avance, plus faut lâcher l'affaire.
Voilà, on n'a plus le temps pour ça. Hein. Voilà, quand on était petit, on avait que ça à foutre. On n'avait pas d'autres jeux.
Ah non, mais c'est surtout qu'avec le temps, avec le temps que tu passes dans le niveau, je crois que plus tu avances, en plus, plus le temps nécessaire pour que ça accélère à un niveau critique est bas.
Ah oui, c'est possible, ça.
Et très honnêtement, il y a un moment où ça devient n'importe quoi. C'est des réflexes à la demi-seconde pour sauter par-dessus hein, le genre de balle qui va te renvoyer en arrière dans les rouges sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Moi, je me rappelle de niveaux où je suis passé par pur putain de miracle parce que j'ai juste genre aveuglément appuyé comme il fallait pour revenir dans une partie vide de la sphère et pouvoir repartir en avant et me remettre comme il faut.
Mais oui.
C'est genre mon cerveau était à la... T'as rien de l'AVC pendant toute la séquence.
Oui, non, mais c'est vrai que parfois tu te retrouves au milieu d'un champ de boules rouges et tu sautes en rythme, tu sais pas ce qui se passe, tu atteins le nirvana et ton corps joue tout seul, quoi.
Ça, et puis... D'un instant à un autre, tu te prends une boule grise, tu retournes, tu te prends une boule rouge et le sound effect le plus stressant de l'univers avec son bel effet de flash blanc à l'écran.
Ah, t'es bien puni pour avoir perdu.
Ah non, mais de toute façon, les bonus stages de Sonic 1, 2, 3, peu importe, hein, sont, je pense, tous faits par pure haine des joueurs.
Il faut dire que la récompense est quand même est quand même à la hauteur du challenge.
À partir du 2, oui.
Oh, pour l'un, il n'y en a que 6 à faire, il n'y en a pas 7 à faire, et puis bon, c'est quand même sympa d'avoir la vraie fin.
Et la vraie fin, celle où t'as juste pas Robotnik qui jongle avec les émeraudes.
Il y a aussi des grosses fleurs qui poussent, ok.
Waouh. C'est pas si fou que ça, quand même. Hein.
Non, mais ce qui était bien dans Sonic 3 et Knuckles, et c'était pas possible dans Sonic 3 tout seul, ni dans Sonic et Knuckles tout seul, et ça n'a plus jamais été possible après, c'est que tu pouvais faire les niveaux bonus de Sonic 3 pour avoir Super Sonic, et après tu pouvais aller faire les niveaux bonus de Sonic & Knuckles à partir de Mushroom Zone pour avoir les Super Emeralds, et les Super Emeralds permettaient de devenir Hyper Sonic.
C'est vrai.
Et alors Hyper Sonic, en termes de design visuel, pour un jeu en 2D, c'était quand même incroyable, parce qu'il clignotait de toutes les couleurs, il avait des grosses étoiles qui tournaient autour de lui, et il avait tout le temps des images rémanentes qui traînaient derrière lui, comme dans les supers de Street Fighter. Et je pense que mon amour pour les images rémanentes dans les jeux en 2D vient assez clairement du temps que j'ai passé à jouer avec Hypersonic. D'autant plus que plus t'allais vite et plus les images rémanentes étaient éloignées les unes des autres, c'était très satisfaisant visuellement.
J'admets.
Knuckles pouvait devenir Hyper Knuckles, ce qui fait que quand il planait dans un mur... Ah oui, parce que voilà, Hyper Sonic, il avait un double saut, et quand tu faisais ton double saut, tu faisais un flash blanc qui tuait tous les ennemis à l'écran, donc n'importe quoi, enfin vraiment, la teuf quoi. Hyper Knuckles, quand il planait sur un mur, il faisait un mini-séisme qui tuait tous les ennemis, et il grimpait très 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 vite. Donc ça rendait quand même assez agréable le traversal, parce que sinon Knuckles, bon, il grimpe au mur, c'est cool, mais il grimpe pas vite. Et si t'avais les 14 émeraudes, tu pouvais transformer Tails en Super Tails. Et il avait 4 petits oiseaux qui devenaient des super petits oiseaux et qui allaient tuer les ennemis à ta place. Donc Super Tails était un peu cheaté. Mais il fallait avoir les 14 émeraudes et pas seulement 7. Ouais, je sais pas combien de fois j'ai joué à ce jeu.
Trop, probablement. Comme
j'ai
moi.
Enchaîné comme un sale. J'ai refait des saves de zéro où je refais le jeu à 100% avec tous les personnages. Je ne sais pas combien de fois. Avec un ordre précis. Il y a même eu une fois où j'ai fait Sonic sans émeraude, puis Sonic avec juste les 7 émeraudes, puis Sonic avec les 14 émeraudes sur le même fichier de sauvegarde. J'ai vraiment bien, bien rincé le jeu. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu que j'adore. Alors maintenant, j'ai un petit peu plus appris à accepter que c'est pas un jeu parfait et qu'il a des défauts, et je respecte le fait qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Et je vais même jusqu'à dire, je vais faire une première petite hot take. Récemment, on m'a offert Grapple Dog, qui est un petit jeu de plateforme indé où on joue un chien qui a un grappin.
Certaines personnes mettraient donc 20.
Alors, le petit chien se bat contre des robots, il se roule en boule quand il saute, et une bonne partie du gameplay est basée sur le fait d'accumuler de la vitesse. Donc, je vous laisse deviner quel genre d'influence les développeurs de ce jeu ont eu pour créer le jeu. Et je dois bien admettre que, après avoir joué à Grapple Dog et à m'être battu contre certains de ces niveaux qui étaient parfois un peu agaçants, on va dire, je comprends mieux que si on n'a pas été matrixé depuis l'âge de 3 ans par la même série de jeux, on puisse ne pas aimer les Sonic en 2D.
Ah, la prise d'otage permanente.
Oui, je comprends mieux. Je comprends mieux que oui, il y a des choses que je pardonne à Sonic en 2D qui relèvent plus du syndrome de Stockholm qu'autre chose. Il m'aura seulement fallu 37 ans pour le faire, ça va.
Mais ça va, tranquille. Tranquille.
Tranquille. Non, mais en plus, voilà. Sonic 3 Knuckles, c'est 94, alors que Grapple Dog, ça doit être genre 2021, donc bon. Il y en a aussi un à qui on pardonne plus facilement.
Peut-être bien.
Et puis bon, si vous arrivez à le tomber à pas cher sur Steam ou quoi, le jeu, il est sympa. Hein. C'est pas exactement comme Sonic. Et il y a des trucs qu'il fait moins bien, il y a aussi des trucs qu'il fait mieux. Donc, faut pas hésiter. Hein. Et moi, un autre truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, on n'a pas parlé du mode de joueur, on va en parler très rapidement. Le mode de joueur existe. On peut faire la course sur des niveaux. Il y a 5 niveaux sur lesquels on peut faire la course. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller écouter la musique du 5e niveau qui s'appelle Endless Mine, qui est une musique absolument sublime et incroyablement mélancolique. Et il n'y a pas de raison qu'une musique aussi belle et aussi triste soit dans le mode de joueur obscur de Sonic 3. Mais elle est là. Et c'est un bel exemple de musique en accord majeur qui est quand même triste. Je ne sais pas si tu me donnes ton seal of approval.
Alors, je suis en train d'essayer de retrouver le morceau pour savoir si oui ou non. Le mode de joueur, par contre, ça, je ne l'ai jamais touché personnellement, encore une fois.
Alors, on pouvait y jouer tout seul et faire du time trial.
Oui, bah alors, quand j'ai commencé à y jouer, j'avais un petit peu autre chose à faire.
Oh, voilà. Mais bon, alors, c'est pas hyper marrant. Alors, en fait, moi, j'y ai beaucoup joué quand j'avais Sonic 3 parce que c'était le seul moyen de jouer Knuckles.
Ah, oh, c'est triste. Ah oui, d'accord. Donc, oui. Au final, moi, je me plaignais d'avoir que Sonic et Knuckles, mais en vrai, avoir que Sonic 3, t'as aussi tes problèmes, quoi. C'est...
Ouais, t'as aussi tes problèmes.
Mais cela dit, moi, j'ai pu jouer à Sonic 2 et Knuckles.
Ah, Sonic 2 et Knuckles, c'est incroyable aussi. Il y a quelques niveaux qui ont été accommodés pour la hauteur de saut de Knuckles, mais globalement, sinon, c'est le même jeu. Et tout se passe bien jusqu'au dernier boss.
Comme souvent dans Sonic 2.
Alors, oui, mais... Le dernier boss de Sonic 2, quand tu joues Sonic ou Tails, si tu es assez bon, tu peux sauter par-dessus les bras pendant que le robot marche pour taper le dessus du ventre,
oui,
et raccourcir un peu le combat. Mais comme Knuckles saute moins haut que Sonic, tu sautes sur les pointes des bras du robot et tu te fais tuer instantanément. Et donc tu es obligé d'attendre qu'il montre son gros ventre à la fin de la phase d'envol. Et tu dois le faire 12 fois.
C'est très long. C'est très, très long. Il ne faut pas se rater.
Mais oui, Sonic 2 et Knuckles, très, très sympa. Enfin, le nom exact, c'est Knuckles the Echidna in Sonic 2 the Hedgehog.
Absolument.
Il n'y a pas que Capcom et Kingdom Hearts qui ont le droit de faire des titres incroyables à leur jeu vidéo.
Et notez que si vous mettiez Sonic 1, bah, vous aviez juste droit à plus de niveaux bonus.
Oui, en fait, ça, alors, si et vous preniez la cartouche jeu, en fait, de Sonic & Knuckles et que vous mettiez une cartouche Mega Drive dedans, qui n'était pas Sonic 2, vous aviez un niveau bonus qui inédit, qui était généré à partir d'un code qui était quelque part dans la cartouche du Mega Drive que vous mettiez dedans. Ces codes étaient une combinaison... Alors, je ne veux pas dire de conneries, mais ça devait être une puissance de 2 assez élevée, le nombre de codes différents qui pouvaient exister. Et quand vous mettiez la cartouche de Sonic 1 dans le Sonic & Knuckles, vous pouviez tous les faire avec toutes les combinaisons. Donc, vous aviez, peut-être pas plusieurs milliards, mais plusieurs millions assez clairement, niveaux bonus différents et de plus en plus durs que vous pouviez enchaîner. Est-ce que j'ai passé quelques étés à faire que ça ? Vous n'avez pas de preuve.
Absolument pas surpris.
Vous n'avez aucune preuve. L'autre truc qui était assez cool quand on avait Sonic 3 Knuckles, c'est que...
128 016 000. Voilà.
Voilà. Ça doit être une puissance de 2, ça. Genre 2 puissance 256 ou un truc comme ça.
Ouais, mais apparemment, c'est d'autres niveaux en spéciaux inédits quand tu le fais avec un autre jeu.
Ah, c'est pas parmi les 128 millions ?
Non, c'est encore d'autres.
Aïe.
En tout cas, c'est l'information que je trouve.
Donc, si vous savez 128 mieux, millions plus le nombre de jeux, plus le nombre de cartouches Mega Drive.
A priori. Hein, si vous avez une information contraire, hein, tout ça, le Discord. Hein.
Ah oui, n'hésitez pas. Donc, l'autre truc qui était très cool, c'était que quand on jouait Sonic et Tails, bon, c'était les mêmes niveaux, et Tails ne faisait pas la confrontation finale dans l'espace. C'est un peu dommage, mais on comprend pourquoi. Donc lui, il s'arrête au niveau 13. En revanche, Knuckles avait sa propre fin avec son propre boss final et il ne prenait pas les mêmes chemins dans les niveaux parce qu'il pouvait casser certains murs que Sonic, lui, ne pouvait pas casser.
C'était beaucoup plus facile de finir avec Knuckles que de finir avec Sonic, d'ailleurs, quand tu n'avais que Sonic et Knuckles. Parce que c'était beaucoup
plus court. Parce que quand tu joues avec Knuckles, l'Avarive Zone n'avait pas de boss. Ensuite, Hidden Palace Zone durait littéralement 5 secondes. Et tu étais directement au dernier boss sur Flying Sanctuary Zone.
C'est
donc
ça
veut dire que le dernier boss normal que tu affrontais, c'était celui dans le désert, avec les pyramides. Et ensuite, c'était une ligne droite quasiment sans boss jusqu'à la fin du jeu. Dernier boss, assez stylé d'ailleurs, puisque c'est un robot Sonic qui peut se transformer en robot supersonique grâce au pouvoir de la Master Emerald. Avec, bon, en gros, faut suivre le pattern et être attentif pour le battre, mais c'est quand même très cool. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans Sonic 2, on pouvait jouer Tails, mais ça changeait rien, il se jouait exactement comme Sonic, et tu faisais les mêmes niveaux qu'avec Sonic, et puis voilà. Sonic 3 et Knuckles, c'est vraiment la première fois où tu peux jouer des personnages différents, et que ça a un impact sur le gameplay et sur le déroulement du jeu. Et donc, je pense que c'est c'est vraiment la première fois que dans un jeu Sonic, t'as, voilà, cette capacité à changer ton expérience de jeu en fonction du gameplay et des personnages auxquels tu as accès. Et je pense aussi, du coup, que c'est très logiquement que plus tard, en 99, Sonic Adventure sur Dreamcast va reprendre un petit peu cette formule où tu choisis ton personnage, qui a son propre gameplay, ses propres niveaux et sa propre fin. Là, ensuite, Sonic Adventure, c'est aussi un jeu extrêmement, extrêmement expérimental.
Oui.
Je l'aime beaucoup, mais il n'y a pas tout qui va dans Sonic Adventure.
Avec ce que ça comporte de bon et de moins bon.
Et je ne parle pas des bugs, parce que
oh là.
Les bugs viennent de la version GameCube Sonic Adventure Director's Cut. La version Dreamcast, elle ne bug pas.
Il y a quand même 2-3 trucs hein, sur Dreamcast.
Les modèles 3D des personnages humains sont vraiment dégueux, mais par contre, je préfère les textures de peau des personnages.
Ah non, si on part pas là, moi je parle de bugs, hein, type bug de collision, genre...
Alors apparemment c'était vrai. Enfin, maintenant on a des souvenirs un peu. Mais tous les trucs de looping qui marche pas et de t'es éjecté sur le côté, c'est vraiment la version GameCube. Hein.
Bah écoute, moi je peux te le dire, je n'ai jamais joué à la version GameCube et pourtant j'ai des souvenirs très précis de passage en dessous de la map.
Est-ce que tu y as joué plus tard sur PC ou sur Xbox 360?
Ah non, je n'y ai pas rejoué depuis l'époque Dreamcast autrement qu'avec la Dreamcast et le CD d'origine. Et j'ai des souvenirs très très clairs, genre de tout un passage sur un espèce, avec Sonic sur un espèce de serpent de pierre, où chaque partie, chaque segment du serpent est individuel, et où clairement il n'y a pas d'interstice entre les différentes plateformes. Elles sont pensées pour que normalement tu puisses aller vraiment faire tout le long du serpent.
Ouais, je me souviens de signaux.
Mais non, de temps en temps, tu peux te coincer entre deux plateformes, tu vas voir Sonic faire du flicker et hop là, passer en dessous. Jusqu'au bout de la map. Wouah !
Ouais.
Full plaisir. Absolu full plaisir. Mais bon, après, pas non plus de quoi gâcher complètement le jeu. Juste quelques souvenirs un peu cauchemardesques, parce que je déteste ce genre de choses. Cela dit, mais... c'est pas comme si on en avait jamais vu avant sur Mega Drive non plus.
Ouais, c'est ça. Non, mais après, Sonic Adventure 2, ils ont essayé d'un petit peu affiner la formule. Il n'y a plus que 3 gameplays. Et plutôt que de choisir un personnage, on choisit une équipe. Et on va jouer différents personnages à l'intérieur de chaque équipe.
Enfin, on joue un side de l'histoire.
Voilà, c'est ça.
L'histoire des gentils, l'histoire des méchants. Et après, on affine encore un tout petit peu plus sur Sonic Heroes, où là, vraiment, on choisit des équipes de 3 qui n'ont aucun foutu sens ou presque. Enfin, c'est plus des POV en fonction de l'histoire. C'est juste des équipes pour dire, regardez, c'est exactement ou presque les mêmes, mais il y en a qui sont plus mignons que d'autres.
Alors, le jeu se déroule quand même pas de la même manière selon les équipes que tu choisis.
Ok, je suis peut-être un peu mauvaise langue et j'aime peut-être vraiment pas Sonic Heroes.
Ah, moi je l'aime bien.
Il y a moyen.
Non, parce qu'en fait, l'équipe Sonic, c'est le gameplay standard. L'équipe Dark, c'est le mode difficile. La Team Chaotix, c'est des objectifs. Le but, c'est pas forcément d'aller au bout du niveau. Et la team Amy, c'est vraiment le mode facile de chez facile.
Je vois.
Ensuite, là, les choses ont déraillé. On a eu Shadow the Hedgehog avec ses véhicules. Et c'est 11, 12 fins.
Shadow avec un flingue.
Shadow avec un flingue, mon gars. Et puis ensuite, bon, bah, le fameux Sonic 2006. Hein. Mais tous ces jeux, en fait, ils reprennent un petit peu la formule de Sonic 3 et Knuckles, puisque tu choisis des personnages différents avec des gameplays différents qui ont un impact sur le déroulement du jeu. Et même plus tard, Sonic Unleashed, le fait de pouvoir jouer Sonic normal le jour et Sonic Garou la nuit, eh ben, ça fait que t'as un peu deux personnages différents avec des gameplays différents. Et il y a plein de... Enfin, en fait, c'est un peu comme si Sega n'avait pas confiance dans la capacité de Sonic à porter un jeu à lui tout seul. Et du coup, t'as toujours des gameplays alternatifs qui vont se promener quelque part. Sonic Colors, tu vas avoir les Wisps qui vont te donner des pouvoirs différents. Sonic Generation, tu pouvais jouer Sonic classique ou Sonic moderne, et il y en a un qui se joue en 2D comme sur Mega Drive, et l'autre qui se joue en 3D comme Sonic Unleashed. C'est encore pareil avec Sonic Forces en 2017, hein, tu peux jouer ton personnage original, ne pas voler, tu peux jouer Sonic moderne ou Sonic classique. Sonic Mania, ça reprend la formule de Sonic 3 et Knuckles, tu choisis ton personnage et ça va changer certains chemins, même avec les personnages DLC. Donc, en fait, c'est un truc qui est devenu vraiment, vraiment intégré à l'ADN des jeux Sonic, de choisir son personnage et d'avoir un gameplay différent. Même dans Sonic Shuffle, le party game sur Dreamcast, selon le personnage que tu choisis, t'as des pouvoirs spéciaux qui vont impacter ta manière d'utiliser les cartes pour avancer sur le plateau.
On allait jusqu'à mentionner Sonic Shuffle. Vous êtes tombé bien bas, monsieur Lamite. Bien bas.
Alors, je n'ai pas de mauvais souvenirs de Sonic Shuffle. Et j'y ai pas mal joué.
Ouais, on va le dire... comment dire, généreusement. C'est pas extra, quoi.
Ouais, non, c'est un peu mouif. Ça se démarquait de Mario Party. Parce que, en fait, pour savoir de combien de cases t'allais avancer, c'était une carte que tu choisissais avec une valeur et les chiffres entre 1 et la valeur que tu avais choisi défilaient très très vite. Donc si tu avais l'œil et des bons réflexes, tu pouvais avoir la valeur maximum à chaque fois. Et tu pouvais aussi te servir de tes cartes pour faire des combats un petit peu à la façon RPG tour par tour contre des ennemis sur la carte. Donc il y avait une ambition d'aller plus loin que Mario Party. Je pense qu'une partie de cette ambition était accomplie, même si pas forcément d'une manière très... le jeu n'était pas la version la plus parfaite de lui-même, hein, mais bon. Moi, j'en ai des bons souvenirs. Et voilà. Le truc, c'est que Sonic 3 Knuckles a apparemment un petit peu servi de blueprint pour tous ces jeux Sonic. Et le truc, c'est que tous ces jeux Sonic, c'est un petit peu des jeux qui n'ont pas une réputation extraordinaire. Hein. Même un jeu qui a un peu une aura comme ça, comme Sonic Adventure 2, en réalité, c'est un jeu qui a beaucoup divisé les fans à l'époque. C'est un jeu qui est quand même un petit peu la risée des gens qui sont pas forcément très très fans de Sonic. Donc, je pense que ma hot take pour cet épisode, c'est que Sonic 3 & Knuckles, c'est un très très bon jeu, mais c'est aussi le jeu qui a un petit peu précipité Sonic dans sa période sombre de clown du monde du jeu vidéo, quoi.
Ok.
En fait, moi, je pense que voilà, Sega a essayé de chasser le dragon, quoi. Ils ont voulu refaire la magie de Sonic 3 & Knuckles et ils n'ont jamais réussi.
Ok.
D'ailleurs, les gens qui ont réussi, c'est l'équipe de Christian Whitehead quand ils ont fait Sonic Mania, et c'est pas des gens de chez Sega.
Tu voudrais dire que ta hot take, c'est qu'au final, c'est les gens qui jouent à Sonic qui ont compris pourquoi Sonic 3 c'était bien, et pas les gens qui font Sonic.
Bon, on peut le voir comme ça, mais bon. Le fait est que si Sonic 3 avait été plus comme Sonic 2, je pense que Sonic Adventure aurait pas été comme il était.
Ok.
Alors, bien sûr, on peut pas aller sur Terre 2 pour vérifier, mais...
Non, ça n'est pas possible, effectivement.
En tout cas, oui, bah oui, les gens qui jouent à Sonic 3 et qui ont aimé Sonic 3, je pense qu'ils ont effectivement mieux compris que chez Sega. Mais bon. Après, quand Sega a essayé de se démarquer un petit peu et s'est mis à nous donner en boucle du Green Hill Zone et du Chemical Plant Zone, oh, regardez, vous vous rappelez Sonic 1 et Sonic 2? Bah, c'est pareil, c'était la Hesse.
Oui, oui, non, clairement, on peut le voir comme ça. C'est assez correct, effectivement. Maintenant, est-ce que ça aurait été pour le mieux? Bon, à voir quand même, parce qu'on n'a pas été non plus hyper mal servi, c'est ça le truc. Mais
on n'a pas été hyper mal servi, donc effectivement, c'est dur à dire. Enfin, Sonic Adventure, ça va. Après, bon, on a commencé à être un peu mal servi, hein, parce que Sonic 2006, c'est chaud.
Putain. Ouais, non, Sonic 2006, c'est chaud. On est bien placé pour le savoir, toi et moi.
C'est vrai. Chaud.
C'est très compliqué. Et puis après, hein, voilà quoi. Hein, tout le Sonic Cycle qui s'est bien mis en place depuis.
Et qui n'a été rompu par pas grand chose. Hein,
Bah, Mania.
Alors, Mania.
Frontiers a fait un petit effort quand même.
Voilà. Sonic Frontiers a fait un effort, c'est un pas dans la bonne direction. Le problème, c'est que ça met aussi en avant des trucs qui sont quasiment irrécupérables dans la franchise Sonic. Parce que, ok, il y a des ressorts et il y a des rails pour faire du grinding et tout, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est juste là pour que Sonic puisse grinder dessus, quoi.
Et puis c'est cet open world, on se fait chier, quoi, en fait. Je préférerais enchaîner les niveaux hein, et pas voir ce machin-là.
Ah, ça m'a pas tellement dérangé. En fait, moi, j'aimerais bien, à la rigueur des niveaux, mais avec le gameplay qu'il y a dans l'open world, parce que Sonic, c'est rarement aussi bien manié en 3D que dans Sonic Frontiers.
Ça, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que le jeu est plaisant, malgré tout. Mais, bon, voilà, quoi. S'emmerde un peu dans cet open world. S'y fait chier. Et ouais, donc du coup, tout ça est peut-être bien. Tout ça est peut-être bien la faute de Sonic 3.
Eh oui, terrible. Hein.
Ah, cet homme est un fou.
Je vous rappelle que Hot Tech et Slowburn est un podcast Studio Carton C. N'oubliez pas de vous rendre sur le site studiocartonc.fr pour voir tous les autres podcasts. Rendez-vous sur le Discord aussi. Vous pouvez envoyer un mail pour nous dire à quel point vous n'êtes pas d'accord à hottech.slowburn@gmail.com. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de l'émission. Merci à Simon pour la musique du générique. Vous trouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Ben voilà, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, je suis toujours Mitlamit et vous pouvez continuer d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. We'll be right back.